Marchandes de sable, Mouche s'en va en guerre de Erika Serton.
Estaminet typique où ils se retrouvaient autour d'un pot de vin bien frais, tous les gens du pays d'Auvergne.
Chapitre 8. Première recherche. De son lit, Mouche voyait sur la commode le petit avertissement. Vous avez jusqu'à samedi soir. Elle lui sourit avant d'éteindre et c'est tout juste si elle ne lui envoya pas un baiser. Il est vrai que malgré la menace apparente de la petite feuille, la fillette, dans la candeur de son âme, l'interprétait avec une certaine fierté. Cela signifiait à ses yeux que les gendarmes ne se sentaient pas assez malins pour dénicher le voleur et qu'ils comptaient sur elle pour y réussir dans un laps de temps très restreint. Et s'ils comptaient sur elle ainsi, c'est qu'ils estimaient qu'elle était capable de réussir. Elle s'endormit sur cette pensée réconfortante. Un seul rêve troubla sa nuit, et ce n'était pas un cauchemar. Elle vit un ange brandissant une épée flamboyante, comme celui qui garde la porte du paradis, qui lui disait « Va, petite mouche, avec tes amis, tu feras prendre le voleur. » Et Quick faisait le beau en écoutant ses paroles d'un air approbateur.
Et quand il rentrait,
la fillette fut réveillée très tôt par une sorte de roulement de tambour. Était-ce un autre rêve ? Non, car le jour filtrait déjà à travers les persiennes. C'était le caniche qui, couché devant la porte, avait produit le bruit en se grattant. Mouche se leva et fit aussitôt sa toilette. Elle n'attendit pas le petit déjeuner que lui montait à l'ordinaire Marie Cortisol et se glissa hors de la maison. Mais elle avait laissé Quick dans sa chambre en lui faisant les plus grandes recommandations de sagesse et de tranquillité. Les villageois ont l'habitude de se lever de bonne heure. Aucun d'eux pourtant n'était déjà dans la rue. La fillette préférait qu'il en fût ainsi, car elle n'aurait pas besoin de répondre à des « bonjour » qu'on ne lui adresserait sans doute pas, et elle partit directement vers la colline. Elle avait le sentiment très net que si là n'était pas la clé du mystère, elle pourrait du moins y trouver les indices dont elle avait tant besoin. Mouche ne suspectait plus le père Bigot, mais ce dernier étant hors de cause, il restait tous les gens du village. Le seul moyen de gagner du temps était donc de suivre Zinzin, qui finirait bien par la conduire à l'instigateur ou à l'auteur du vol. Quant aux objets, ils devaient être dans un endroit peu éloigné où leur peinture couleur de terre les rendait difficiles à voir. Son tout premier objectif étant de trouver Zinzin, elle monta directement à la cabane, mais la mauvaise porte était fermée. L'innocente devait dormir encore. Comme elle ne savait pas combien de temps elle devrait attendre, elle décida d'utiliser ce répit pour examiner les alentours. Si les objets volés se trouvaient dans une cachette, à l'insu peut-être de l'innocent, il serait intéressant de les découvrir. Elle tourna autour de la cabane en décrivant, à la manière de la coquille d'escargot, un cercle qui s'agrandissait à chaque tour. Mouche regardait non seulement à terre, mais aussi en l'air, car on peut percher quelque chose sur les branches, puisque les oiseaux y installent leur nid. On pouvait également utiliser des terriers d'animaux, des troncs d'arbres creux. Ce n'était pas là que les gendarmes viendraient fureter. Mais c'est surtout sur le sol, n'est-ce pas, que les vrais limiers cherchent les traces. D'autant plus que sur un des sentiers, avec la rosée du matin qui les humectait, des herbes foulées indiquaient que les pieds de Zinzin avaient dû passer par là. Certes, Mouche ne s'imaginait pas que dès sa sortie, l'innocent la conduirait au coupable. Mais elle ne doutait pas du résultat final et c'était surtout cela qui faisait sa force. Elle arriva à un endroit où deux ou trois gros pins avaient été coupés au ras du sol, formant une sorte de tonnel. Mais les branches des arbres voisins, qui en formaient le plafond, avaient été dépouillées de leur écorce et brillaient comme si on les avait frottées soigneusement. Mouche, alors, regarda à ses pieds avec plus d'attention pour voir si quelques traces ne s'y trouvaient pas. « Tiens, du chocolat !» s'écria-t-elle soudain. Elle ramassa une sorte de tablette large d'environ 2 cm et longue d'une dizaine. Elle était un peu arrondie et il y avait dessus trois petits points qui ressortaient comme des boutons à pression, à intervalles réguliers. Ce n'était pas du chocolat, mais seulement de la terre qui s'effrita dans ses doigts quand elle la serra un peu. S'agenouillant, elle trouva plusieurs autres petits morceaux de même substance qui rejoignaient une piste de pas. Et les pas se dirigeaient vers un fourré plus touffu que les autres. Elle suivit les traces visibles sur le sol mou en cet endroit et trouva encore trois rondins fendus en long comme ceux qu'elle avait vus près de la cabane de Zinzin. Il y avait donc six moitiés et qui paraissaient avoir été fraîchement coupées. Un peu plus loin, un autre fourré barrait le sentier, mais près du sol, les branchages s'écartaient pour former une sorte de tunnel. Si c'était un passage, il ne pouvait avoir été fait que par un animal, car un homme comme Zinzin n'aurait pu y passer qu'en se mettant à quatre pattes. Mouche sentit un frisson lui parcourir l'épiderme, si c'était un loup ou un ours, et qu'elle se trouva subitement nez à nez avec lui, elle n'en serait pas du tout enchantée. Elle ramassa encore par terre une demi-tablette à moitié brisée de faux chocolat, mais elle ne poussa pas son inspection plus loin, car cette nouvelle trouvaille venait de lui donner à réfléchir. Revenant sur ses pas, elle suivit les empreintes de chaussures avec plus d'attention. Elles aboutissaient à la cahute de l'innocent, ce ne pouvait donc être que les siennes. Zinzin n'était toujours pas réveillé car sa porte demeurait close. Mouche en éprouva un certain soulagement. « Je ne puis rester seule ici, » s'écria-t-elle. « Il me faut l'aide de Polo et de ses amis. Cela devient indispensable. » Rejoignant l'Orédillon, elle partit aussi vite qu'elle put vers la colonie de vacances. Chapitre 9. La trouvaille de Mouche. Comme Mouche descendait le sentier abrupt, les garçons de la colonie l'aperçurent et lui adressèrent des signes amicaux. Polo courut l'attendre à la barrière. « Et ton voleur ? » dit-il. « Les gendarmes l'ont trouvé ?»« Pas encore, il compte toujours sur moi. »« Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Le dénicher, naturellement, et j'espère que vous allez m'aider à lui donner la chasse. » « Naturellement, c'est une bonne idée et mes camarades vont être enchantés. J'aurais bien besoin d'eux, mais il faut leur demander s'ils acceptent. Ils vont dire oui avec enthousiasme. Tu parles une chasse aux voleurs. C'est plus amusant que de scier du bois ou d'aller en promenade avec les chefs. Alors parlez, j'attends ici. » Les petits bonhommes furent emballés par la proposition et Christophe se chargea d'obtenir la permission de la journée en disant que l'ami de Polo venait les chercher pour jouer dans la colline. « Il va falloir nous équiper pour ce genre de chasse, » décréta Alex. « Les voleurs sont plus malins que les ours. »« Nous prendrons les piolets et les cordes, » ajouta Francis. « C'est ça, » approuva Polo. « Des cordes longues et solides pour les attraper et les ligoter ensuite. »« Sois tranquille pour cela et viens, » conclut Christophe. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que Mouche les voyait arriver, équipés de pieds en cap. Il n'avait pas oublié les longues cannes à bout ferré. « Partons tout de suite, Mouche, » dit Christophe. « Vous nous expliquerez ce qu'il faudra faire quand nous serons sur place. » Ils atteignirent bientôt le bas du ravin où avait coulé le ruisseau de boue et s'assirent pour tenir conseil. La fillette les mit au courant de ce qu'elle avait entendu dire à Bigot et exposa la nécessité de suivre Zinzin qui les mènerait certainement aux voleurs. « C'est compris, » dit le chef d'équipe. « Nous allons nous installer en éclaireur autour de son espèce de cabane et lorsqu'il sortira, il faudrait bien qu'il passe auprès d'un de nous. Alors celui-là préviendra les autres et nous filerons tous derrière lui. »« Très bien, » approuva Mouche, « mais pour ne pas vous faire remarquer, c'est moi qui marcherai la première derrière Zinzin. Vous me suivrez à distance jusqu'à ce que j'ai vu la personne que l'innocent ira retrouver. Si j'estime que c'est le voleur, je vous avertirai en levant les bras et vous le sauterez tous dessus. » « C'est ça !» s'écria Polo. « Et on le ficellera comme on voulait faire à l'ours quand on a été inondé par la bouillasse. »« À propos, » demanda Christophe, « on n'en a pas parlé de cette affaire ?»« Non, Dieu merci !» répondit Mouche. « Je me suis bien gardé d'y faire allusion, mais c'est un mystère qu'il faudrait que nous éclaircissions. »« J'aimerais autant qu'on ne s'en occupe plus, » protesta Polo. « C'est par là que tu vas nous emmener ?»« Pas très loin, à peu près à la même hauteur. »« Mais plus près de la route. » Nous pouvons y aller tout de suite. Même si on nous voit, ce n'est pas défendu de se promener dans la forêt. Non, mais si c'est le voleur qui nous aperçoit, il va se sauver. Tu ne crois tout de même pas habillé en gendarme ? Fit Mouche en riant. C'est vrai, nous n'avons pas chipé les vieux képis. Allons, en route, ne perdons pas de temps. La fillette pensa de nouveau au petit tunnel sous les branchages et frémit en songeant que si c'était le passage d'un loup, il avait pu dévorer la chèvre. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. »« À qui donc ?» demanda Polo. « À la chèvre ? » ?»« Quelle chèvre ? » ?»« Une brave bête à longue barbe qui ne s'est pas laissée taquiner par Quick. J'ai remarqué hier une sorte de trouée sous les branches, et si c'est un loup qui l'a faite, il a pu la manger comme le petit agneau de la fable. »« Il faut aller voir. Où était-elle ?» À une centaine de pas, en suivant ce rayon. « Eh bien, en avant les amis, à la lance !» Pointant sa longue canne comme un combattant de la phalange macédonienne, il se précipita en avant. Ses camarades le suivirent avec des dispositions aussi belliqueuses, tandis que Mouche, anxieuse, marchait prudemment derrière eux. Soudain, la voix de Polo s'éleva, joyeuse. « Ohé ! Elle est là, bien vivante !» Mais un bruit bizarre retentit tout à coup, accompagné d'une clameur d'épouvante. « Elle veut me tuer !» hurlait le gamin. La fillette courut en avant, mais fut bien vite rassurée par de bruyants éclats de rire. Elle trouva les garçons sur l'emplacement du pâturage improvisé, occupés à remettre debout Polo, pâle comme un mort. Lorsque celui-ci avait découvert la chèvre qui broutait paisiblement, il s'était retourné vers ses camarades pour claironner la nouvelle. La biquette avait pris peur et était partie en galopant. Seulement, solidement attachée, elle n'avait pu que tourner en rond autour de son piquet, et la chaîne était venue heurter les chevilles du jeune garçon, le faisant tomber les quatre fers en l'air tandis que la canne s'échappait de ses mains. « Tu ne t'es pas fait mal ?» s'inquiéta Christophe. « Je sais pas, je ne crois pas. »« C'est possible, » objecta Francis. Mais en dégringolant sur le dos, il a écrasé tout son fourniment et notre gamelle de campement est cabossée. « Bah !» dit le plus grand pour le consoler, en tapant doucement dessus avec le dos d'une hachette. « Nous la redresserons !» Mouche fit alors la chèvre qui leur tournait le dos avec mépris et partagea l'hilarité des autres, ce qui vexa profondément Polo. « Je l'ai pas fait exprès » grogna-t-il. Cette excuse, dont il avait tendance à abuser, ne fut pas faite pour calmer les rires, mais la fillette redevint subitement sérieuse. « Attention !» fit-elle. « Les cris de Paolo ont peut-être réveillé Zinzin, et il faut savoir où il va aller. » « Pourrons-nous mettre en embuscade ?» dit Alex. « Nous avons encore le temps. S'il est éveillé, il vaudrait bien qu'il s'habille avant de partir. »« Faisons vite quand même, » ajouta Francis. « Il se couche peut-être avec ses loques. » Mouche se dirigea vers la petite troupe, vers la cahute de l'innocent. Elle l'encadra avec ses sentinelles qui s'assirent sur leurs cordes roulées, sous les ombrages d'où ils pouvaient surveiller la porte sans être vus. Christophe dit alors à Mouche, qui était resté auprès de lui, « Faites-moi donc voir ce que vous avez appris pour un passage de loup. Les autres suffisent pour guetter votre bonhomme. » Elle le conduisit vers le fourré qui l'avait intrigué la veille. Mais avant d'y arriver, ils passèrent auprès de rondins fendus en deux. « Que Zinzin peut-il bien faire avec ça ?» demanda-t-elle au chef d'équipe. « Pas grand-chose, sans doute. C'est une sorte de bouleau peu répandu dans la forêt. »« Est-ce pour son chauffage ?»« Sûrement pas. » Le bois frais est très difficile à allumer, alors qu'il y a tant de branches mortes par ici. Et puis il faudrait le débiter en petits morceaux, ce qui nécessiterait beaucoup de travail. Il a dû avoir du mal déjà à le couper en deux. Non, c'est très facile. Tenez, nous avons passé tout à l'heure près d'un chantier où il n'y avait encore personne. Venez voir. Christophe l'amena sur l'emplacement de la coupe d'arbres. Il y avait justement 2-3 rondins de bouleau parmi un tas d'autres arbres. Les bûcherons ont laissé leurs outils, dit-il. La démonstration ne sera pas compliquée. Le jeune garçon dégagea l'un des morceaux et avisa au pied d'un arbre un coin de fer et une masse, plaça le gros clou au milieu de la section du rondin, puis, d'un coup de l'énorme marteau, le fit entrer dans le tronc du bouleau qui le sépara, en long, en deux parties égales. Vous voyez que c'est plus facile que de le scier et plus expéditif. Je n'aurais jamais cru que la pointe de fer y entrerait aussi facilement. C'est du bois à s'étendre, en fendant en deux comme je viens de le faire. Des gros troncs d'arbres de ce genre, les Indiens d'Amérique fabriquent des pirogues. Ce sont des bateaux ? Oui, à peu près comme ceux que nous appelons des canoës. Ils enlèvent le milieu en le grattant, et après avoir passé l'autre côté au rabot pour l'aplanir, ils peuvent le mettre à l'eau et s'asseoir dedans. Christophe le montra, qu'il pouvait aisément creuser avec son couteau dans la pulpe du rondin. « Vous voyez !» ajouta-t-il. « Avec un peu de patience, je pourrais creuser assez d'intérieur pour faire la coque d'un petit navire, comme ceux du bassin des Tuileries. » Mouche regardait fixement les tronçons du rondin. « Rôle de bateau, en effet, » murmura-t-elle. « Mais cela pourrait peut-être servir à autre chose. » Elle demeura un instant songeuse et ne demanda plus d'explications. Prenant la main de son compagnon, elle le conduisit à l'entrée du petit tunnel sous les branches. « Voilà ce qui m'a effrayée, » lui dit-elle. « Ça, un passage de loup ?» fit Christophe en riant. « Vous plaisantez. C'est probablement un ancien sentier qui n'a plus été utilisé depuis des années, et les branches basses des arbres qui le bordaient se sont rejoints. Et puis c'est bien trop large pour un loup. Il pourrait en laisser passer quatre de front. Un homme y entrerait facilement en se mettant à genoux. » Mouche réfléchit encore, puis haussa les épaules. « J'ai été sotte d'avoir peur, » conclut-elle. « Retournons à la cabane de Zinzin. » Comme ils en approchaient, Polo accourut au devant d'eux. « Ça y est !» s'écria-t-il. « Il vient de sortir et les autres sont derrière lui !» L'innocent descendait la colline, mais il ne se dirigea pas vers le village et obliqua dans la vallée. Mouche, qui ne s'attendait pas qu'il prît cette direction, décida qu'elle pourrait profiter de son éloignement pour avoir le cœur net d'une idée qui avait germé dans son esprit. Je vais rester ici, où j'ai quelque chose à faire, dit-elle à ses amis. Suivez-le de loin et s'il revient, que l'un de vous vienne aussitôt m'avertir. Quoi, tu nous laisses tomber ? Grommela Paolo. Pas pour longtemps, vous me retrouverez à la plateforme. Les jeunes gaillards mirent leur bâton en bandoulière et coururent retrouver Alex et Francis, qui étaient aux trousses de l'innocent. Quand ils furent assez éloignés, la fillette s'empressa de revenir à l'entrée de l'ancien sentier qui l'avait si fort inquiété. « Puisqu'on pourrait y passer à quatre pattes, pourquoi ne le ferais-je pas moi-même » conclut-elle. Elle se glissa sous le couvert et à certains endroits put se mettre debout et marcher en baissant seulement la tête. Le sentier remontait vers le sommet de la colline. Elle le suivit toujours et finit par se retrouver contre une sorte de mur de terre comme celui que Quick avait gratté, provoquant par la suite l'inondation de Polo et de ses camarades. Le longeant courbé en deux, elle arriva soudain à la hauteur d'une sorte de trou formant un vrai tunnel cette fois. N'était-ce pas pour de bon un terrier d'animal, puisqu'il paraissait s'étendre en profondeur ? Elle se pencha au-dedans et prêta l'oreille. Les seuls bruits qu'elle entendit étaient, à l'extérieur, ceux des haches des bûcherons, qui avaient repris leur travail. Elle n'était donc pas très éloignée d'eux, et pourrait les appeler si un danger quelconque la menaçait. Après avoir hésité longtemps, Mouche se remit à quatre pattes et pénétra dans l'ouverture. Mais presque aussitôt, elle se heurta à un barrage de grosses pierres qui avaient été posées là, les unes sur les autres, sans doute pour boucher la galerie. Elle n'avait donc plus rien à craindre d'un animal, et essayant de déplacer les pierres du dessus, y parvint assez aisément. Seulement, la galerie continuait sous terre, dans l'obscurité, et elle regretta de n'avoir pas emprunté la lampe électrique qu'elle avait vue pendue à la ceinture de Christophe. La curiosité l'emporta. Elle réussit à se glisser à plat ventre dans la brèche qu'elle avait faite au petit barrage de pierre, et quand elle fut arrivée, elle écarta les bras pour mesurer la largeur du couloir souterrain. Elle étouffa soudain un cri de frayeur, sa main droite avait rencontré une chose molle et rugueuse dont elle ne pouvait s'expliquer la nature. Promenant ses doigts dessus, elle sentit un bouton, comme celui d'une veste, ce qui lui rendit aussitôt tout son courage. Mouche prit alors à deux mains la chose rugueuse qui, lorsqu'elle la tira, vint à elle sans effort. Repassant par-dessus les pierres, elle revint à l'entrée du couloir et vit que c'était une musette comme celle que portaient autrefois les soldats. Elle se souvenait d'en avoir trouvé une à peu près semblable, quoique moins crasseuse, dans le grenier de la ville de son oncle. « Je voudrais bien savoir ce qu'il y a dedans, » murmura-t-elle. Se glissant assez péniblement à travers les branches de l'autre côté du sentier couvert, elle alla s'installer derrière un arbre pour l'examiner à son aise. Mouche ouvrit la musette sur ses genoux. Elle contenait des paperasses sales et jaunies, pour la plupart, donc qui devaient y être enfermées depuis longtemps. Elle y trouva une sorte de carnet et un portefeuille bon marché, moisi par l'humidité et dans lequel étaient insérées des coupures de journaux pliées et de vieilles lettres. Le carnet, usagé et défraîchi, portait, imprimé sur sa couverture, les mots « livret militaire » et le nom du titulaire était le même que celui qu'elle venait de lire sur une enveloppe. Il y avait aussi une page de journal sur laquelle le nom était écrit en gros caractères au-dessus d'une photographie. Saisie d'un tremblement, elle remit d'abord le tout dans la musette. Puis, se ressaisissant, elle prit le carnet, y inséra la page de journal et le glissa contre sa poitrine par l'encolure de sa robe, en serrant sa ceinture pour qu'il ne risque pas de tomber. Reboutonnant la poche de toile, elle la rapporta dans sa cachette et replaça sur les autres les pierres qu'elle avait enlevées pour qu'on ne s'aperçoive pas que quelqu'un y avait touché. Puis elle sortit du sombre trou. Il ne lui restait plus qu'à aller attendre ses camarades. Mais comme elle entendait toujours les coups de hache, Mouche réfléchit qu'il pouvait y avoir un chemin plus court, et surtout plus pratique pour regagner l'endroit du rendez-vous. Elle continua donc à longer à quatre pattes l'espèce de mur. Elle n'avait pas parcouru 20 mètres que le plafond de branchages se relevant, elle put se mettre debout. Elle arriva ainsi à un espace dénué en forme de rotonde et vit contre la paroi de terre des branches garnies de feuilles mortes posées verticalement. C'était ainsi qu'elle avait disposé des fougères avec Jacotte et Martine pour cacher les dégâts causés par Quick. Cela lui donna l'idée de regarder si quelqu'un n'aurait pas voulu masquer un trou de la même façon. Mouche les écarta doucement et vit qu'elle avait deviné juste. Elle découvrit l'entrée d'un nouveau couloir souterrain qui avait bien un mètre de haut et une largeur à peu près égale. S'agenouillant pour avancer la tête dans l'ouverture, elle tendit l'oreille et perçut une sorte de glou-glou comme le murmure d'une eau courante. Elle préféra ne pas s'y aventurer, en ayant assez vu pour le moment, mais se promit bien d'y revenir avec la lampe de Christophe, cette obscurité n'étant nullement rassurante. Replaçant soigneusement les branches, dans leur position première, elle regarda autour d'elle afin de prendre des points de repère pour retrouver l'endroit plus aisément. Ce fut facile, car il y avait à quelques pas un gros chêne, l'arbre le plus haut peut-être de la forêt. Sans revenir sur ses pas, elle poursuivit son chemin en avant et la surprise, en longeant toujours le mur de pierre, de terre, de déboucher dans le ravin sec près du fameux trou d'où s'étaient échappées les eaux malencontreuses. Mouche fronça d'abord les sourcils puis finit par hocher la tête d'un air entendu et dévala le ravin pour arriver à la plateforme. Les garçons l'y rejoignirent quelques instants plus tard. Ils avaient la tête basse et l'air peu satisfaits d'eux-mêmes. « Eh bien ?» leur fut-elle quand ils furent arrivés. « Il nous a emmenés assez loin, » fit Polo. « Alors nous avons fini par le laisser filer. »« Nous aurions peut-être dû continuer, » ajouta Christophe. « Non, » s'écria la fillette. « Vous avez bien fait de revenir et je vous remercie. D'ailleurs, c'est assez pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner à la colonie. »« Quoi ? Tu abandonnes la partie ?»« Certainement pas. J'ai même l'impression qu'elle va être gagnée. »« Hein ? Tu as déniché le voleur ?»« Pas encore, mais j'ai découvert quelque chose de louche et j'aurai besoin de vous demain matin, sans faute. » Vous pourrez encore avoir la permission ? Oui, surtout si nous rentrons maintenant. Donc vous viendrez avec le même équipement, sans oublier vos cordes. Nous ne sortons plus sans nos lassos, fit Polo après qu'un sérieux comique. Et vous avez bien raison, ils ne serviront peut-être pas, sinon à vous asseoir dessus. Et Zinzin, qu'est-ce que nous en faisons dans tout cela ? Je ne le lâche pas, le pauvre. Il ne se doute pas quel service il va nous rendre en nous faisant attraper le vrai voleur. Pourvu que ça ne tarde pas. Je crois bien que je vais faire tout mon possible pour tenir ma promesse aux gendarmes. En ce cas, au revoir et à demain. À quel endroit le rendez-vous et à quelle heure ? Comme aujourd'hui, mais en haut du Raidillon. Vous n'avez besoin de rien en attendant ? Ajouta Christophe. Si, vous me feriez plaisir en me prêtant votre lampe électrique. Volontiers, la voici. J'ai bien fait de changer la pile hier soir. Celle qui est dedans est neuve. Merci, j'en aurai le plus grand soin. Les quatre garçons s'en allèrent et Mouche retourna au village. Arrivée chez les Cortisol, elle monta directement à sa chambre. Là, elle ôta sa ceinture pour récupérer le livret militaire, mais entendant des pas dans l'escalier, elle le glissa rapidement entre le matelas et le sommier de son lit. Il était temps. Marie Cortisol ouvrait déjà la porte, avec difficulté d'ailleurs, car elle apportait le repas de la fillette sur un grand plateau. tout en l'installant sur la table, elle lui dit « As-tu de bonnes nouvelles à me donner ? Mon mari se fait beaucoup de mauvais sang, car enfin il t'a fait confiance. Il a eu raison, et j'espère le lui prouver demain. Tu lui diras où sont les choses volées ? Ce n'est pas impossible. Tu veux bien te décider à avouer où elles sont ?»« Non, madame, » reprit Mouche rouge d'indignation, « je n'ai pas à avouer une malhonnêteté que je n'ai pas commise, mais je puis vous dire que je suis sur une piste très sérieuse. » Si sérieuse que cela, de plus s'empêcher de dire la brave femme sur un ton un peu ironique. Suffisamment, répliqua la petite pincée, puisque les gendarmes eux-mêmes n'ont pas su encore la découvrir. Et tu te crois plus forte qu'eux ? Forte ? Certainement pas, mais un peu plus clairvoyante, au moins en cette occasion. Enfin, l'essentiel est de faire vite. Tu n'as plus que jusqu'à demain soir. Votre petit billet est là pour me le rappeler. Je vous répète que j'ai promis et compte tenir parole. Nous qui est content, ajouta sèchement la femme du brigadier en se retirant. Sitôt qu'elle eut disparu, Mouche se précipita vers la porte et colla son oreille au panneau. Quand elle n'entendit plus les pas de Marie Cortisol, elle bondit vers son lit et reprit le livret sur son matelas. Elle déplia alors la page défraîchée du journal et son cœur se mit à battre plus fort tandis que son visage s'éclairait. Faut-il être bête pour ne pas brûler de pareilles choses, murmura-t-elle tristement.
Qu'il est beau, qu'il est bien, oh là là. Il est chouette, super ce tcha-tcha.